Didier Laguerre, bonjour.
Bonjour.
Nous faisons un complément d'information sur les emplois aidés. On a constaté que vous êtes dans les rues, que vous êtes présent avec les syndicalistes et je dirais même que vous vous arrangez pour qu'on vous voit dans la manifestation, dans une certaine mesure. Est-ce que c'est parce que vous êtes enseignant ou est-ce que c'est parce que vous êtes vous-même aux affaires avec des emplois aidés? Et expliquez-nous exactement les raisons qui font que vous êtes dans la rue, disons.
Je suis solidaire de ce mouvement, je suis partie prenante de ce mouvement parce que je suis maire. La ville de Fort-de-France compte 3 emplois aidés au sein de ses effectifs.
Donc, combien ?
3. Oui. 3. Donc ce n'est pas pour préserver les équilibres budgétaires de la ville. C'est parce que...
Vous n'avez que 3 emplois aidés pour toute la ville de Fort-de-France ?
Oui, dans l'administration municipale, il n'y a que 3 emplois aidés. Oui, c'est un choix qui a été fait. Nous n'avons pas de contrat aidé d'une façon générale. Maintenant, vous avez des milliers d'emplois aidés en Martinique. Vous avez des milliers d'emplois aidés dans les associations. Parce qu'on parle d'emplois aidés, on parle de contrat, on parle de quelque chose de relativement abstrait. Et quand les gens nous écoutent, on pourrait penser que c'est une aumône qu'on donne. Mais en fait, ce sont des gens qui remplissent des missions essentielles dans l'éducation.
Alors, c'est vachement intéressant ce que vous nous dites. Vous nous dites, nous, à la ville de Fort-de-France, en tout cas moi, monsieur le maire, j'ai pris l'option de ne pas avoir plus que 3 emplois aidés, disons. D'accord ? Et en Martinique, il y en a 1000. Ça veut dire quoi ? Des milliers, oui. On parle même de 5000 avec les
5 à 6 000. 6000. 6000 emplois aidés en comptant les différents types de contrats.
Voilà. Alors, est-ce que vous, qui n'avez pas développé ces contrats aidés, vous ne les avez pas développés pourquoi ? Expliquez-nous alors.
Je n'ai pas développé de contrat aidé parce que lorsque j'embauche quelqu'un à la mairie de Fort-de-France, je lui donne un salaire normal, un salaire correct, et que nous avons fait le choix de ne pas prendre de contrat aidé parce que ça c'est compliqué. Et à l'arrivée, lorsque le contrat est terminé, la personne vous avez, enfin, il m'est difficile de dire à la personne ton contrat est terminé, ça fait 2 ans, on ne peut plus faire de contrat aidé. Donc du coup, je te sors. Je te remets au chômage.
D'accord.
Donc je préfère oui, embaucher directement. D'accord. Donc, lorsque j'embauche.
D'accord. Donc ça veut dire finalement que vous-même, dans le fond, quoi, dans le fond, oui, c'est pas quelque chose qui vous convienne.
Non, dans le fond, le contrat aidé n'est qu'un pis-aller, n'est qu'une solution d'attente.
Alors, expliquez-moi, monsieur le maire, pourquoi vous êtes dans la rue, justement. Expliquez-moi, parce que je veux dire, vous semblez défendre cette question-là. Vous ne l'en voulez pas pour chez vous, mais vous êtes dans la rue, vous défendez.
Je n'ai pas dit que je n'en veux pas pour chez moi, j'ai dit que je n'en ai pas. Je suis dans la rue pour défendre cette question-là parce que je défends l'activité de 6000 Martiniquaises et Martiniquais. Je défends l'activité et donc l'emploi de personnes qui sont essentielles au fonctionnement de la société, qui interviennent dans les associations.
D'accord. Alors, vous savez que sur l'ensemble de nos supports, et en particulier ici Martinique, nous avons pris une position, c'est pas simplement une position éditoriale, mais c'est une position, c'est de considérer que si ces emplois sont nécessaires, il faut qu'on paye les gens, comme vous dites finalement à la mairie, vous dites, bon, alors, est-ce qu'on ne peut pas profiter de cet instant qui est quand même un moment où ça commence à faire un sérieux bras de fer pour poser le vrai problème, quoi. Enfin, je veux dire, s'il y a 6000 personnes qui sont nécessaires à faire tourner le pays, est-ce qu'il faut qu'on trouve le point d'équilibre en faisant des emplois de seconde zone, quoi ?
C'est pas parce que ce sont des contrats aidés que vous n'avez pas forcément des salaires. Ça dépend du lieu d'intervention. Quand vous intervenez, par exemple, quand moi j'ai un contrat aidé, il va être payé au SMIC, l'État va prendre en charge 75% et moi je vais prendre en charge le reste. Maintenant, certains contrats aidés ont des volumes horaires de travail de 20 heures par semaine et donc ont la rémunération qui correspond. Et donc, ce qui fait des rémunérations plus faibles. Rien ne vous empêche, vous employeur, d'augmenter le volume de travail et de payer normalement le complément. Le fond du problème, c'est que ces gens remplissent des missions dans l'éducation nationale, ils remplissent des missions et des fonctions pérennes. Oui. Et donc, la vraie question, c'est en faire des emplois pérennes. D'accord. Le système des emplois aidés, l'objectif, c'était de permettre, et c'est de permettre à des gens qui sont éloignés de l'emploi, qui sont en difficulté, oui, d'avoir une première expérience, d'avoir un retour, oui, au marché du travail.
D'accord. Mais monsieur le maire, pourquoi les maires aujourd'hui qui sont collectivement ensemble sur cette question-là, pourquoi aujourd'hui vous ne dites pas ce que vous êtes en train de nous dire? Pourquoi vous dites, moi je défends les emplois aidés? Parce qu'en tout cas, alors que je suis un observateur de la vie politique, je note que vous avez une très belle photo avec toute votre équipe, David, Zobda et compagnie, tout ça, remontant le boulevard Général de Gaulle, je veux dire, prêt à en découdre avec ses emplois aidés. Enfin bon,
non,
je veux dire, c'est une photo, c'est mille interprétations.
Voilà, chacun l'interprète comme il veut. Mais enfin, on se rendait juste à la maison des syndicats.
Bon, mais je veux dire que... pour moi, vous défendez cette question, alors qu'au fond, je suis en train de découvrir que vous n'êtes pas plus pour les emplois aidés que ça, quoi.
Non, je défends la question des emplois aidés. Ce qui ne m'empêche pas de dire que ce n'est pas la solution au problème de l'emploi à Martinique. C'est un pis-aller. Les associations qui portent ces contrats, les associations sportives, culturelles, socioculturelles, qui font du soutien scolaire, du portage de repas, etc., n'ont pas les moyens d'embaucher ces personnes-là. N'ont pas les moyens de financer le salaire parce qu'elles ont une activité qui n'est pas rémunératrice. Les gens, les associations qui font de la garderie dans les écoles, si elles doivent payer l'intégralité du salaire, elles vont devoir facturer l'intégralité du service.
Oui. Alors, est-ce qu'il ne faut pas justement que ça soit notre première révolution qui consiste à dire à un moment donné, il faut qu'on paye les choses à leur juste prix?
Encore faut-il que c'est pour ça que c'est une question qui est complexe et globale. Encore faut-il que les parents d'élèves qui déposent leurs enfants et qui sont au SMIC n'ont pas les moyens de payer à leur juste prix l'animateur qui va faire la garderie ou qui va s'occuper de l'enfant.
Est-ce que nous ne sommes pas en train de nous rendre compte, monsieur le maire, qu'avec toute
que le modèle économique n'est pas bon?
Non, mais au-delà de ça même, je veux dire que l'ensemble des politiques sociales que nous avons mises en place finalement dans le pays sont en définitive en train de nous faire basculer vers une précarité globale. Je prends un exemple. Dans le cadre du BTP, vous savez qu'aujourd'hui, vous connaissez les marchés vous-même. Bon, vous voyez les prix, vous faites des appels d'offres, vous savez comment vous réagissez par rapport à une offre. Dans le cas de l'agriculture, les agriculteurs disent...
Quand je fais des marchés, je ne vais pas chercher forcément le moins cher. Quand je m'occupais de marché au conseil régional, je n'allais pas forcément chercher le moins cher. J'allais chercher l'offre la plus avantageuse, donc la meilleure qualité.
Oui, là, comment enfin, je veux dire,
c'est pas forcément, parce que beaucoup des chefs d'entreprise m'ont reproché. Oui. J'étais moins cher et je n'ai pas été pris. Oui, mais c'est pas ça.
D'accord, mais vous n'allez pas non plus chercher le marché qui est deux fois plus cher que tout le reste.
Exact.
Est bien d'accord, alors qu'en réalité, celui qui est peut-être deux fois plus cher que le tout, c'est lui qui est au bon prix.
Mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui va rémunérer non plus deux fois plus ses salariés.
Oui.
Donc il y a ça. Mais au fond, la question des emplois aidés nous montre qu'on a un système qui fonctionne mal. On a par exemple l'État, au sens large du terme, qui va consommer 1000 emplois aidés dans ses services, plutôt que de rémunérer pour l'éducation, plutôt que d'avoir des postes pérennes et de rémunérer ces gens.
On va dire 1000 sur 6000, c'est pas mal, c'est un sixième.
C'est un sixième qui pourrait être justement mis à la disposition d'associations pour porter des services en matière de cohésion.
D'accord.
Derrière, ça veut dire aussi que tant que vous n'avez pas une activité économique, tant que vous n'avez pas un modèle économique qui permette de générer de l'emploi, tant que vous n'avez pas un système qui permette à la Martinique, tout le monde voit bien que l'économie de la Martinique est bloquée aujourd'hui, qu'elle est en difficulté, qu'elle a du mal à répondre aux besoins en matière d'emploi des jeunes et des moins jeunes. Tant que sur le plan économique, les choses ne tournent pas, vous avez besoin d'accompagner l'emploi, vous avez besoin d'accompagner un certain nombre de services. Et puis, au-delà de ça, une association qui fait de l'activité, une association sportive, ne peut pas financer des emplois. Vous n'allez pas payer 500, 600 euros par mois pour pouvoir mettre vos enfants dans un club sportif pour financer les salaires des animateurs. Donc, il y a tout un champ de l'économie sociale et solidaire qui a besoin de cet accompagnement. Alors maintenant, on parle d'emploi aidé, mais ça pourrait parfaitement se faire sous la forme de financement des frais de fonctionnement et des frais d'une partie des frais de salaire des associations.
D'accord.
Ce qui permettrait de développer des activités de portage de repas pour une personne âgée.
D'accord.
Vous n'allez pas facturer 25 euros le repas par jour à une personne âgée parce que c'est ce que ça revient à lui porter le repas.
Alors, monsieur le maire, écoutez, ça nous intéresse de plus en plus ce que vous dites. En réalité, on a envie de vous demander, alors on fait quoi?
Donc, nous, ce qu'on a demandé, c'est pas simplement le maintien pur et simple des emplois aidés, puis les choses sont bien comme elles sont là. Non, nous disons que le dispositif est perfectible et qu'il n'est qu'un pansement.
Oui.
Mais c'est un pansement qui est nécessaire aujourd'hui. Et donc nous disons, faisons un moratoire sur la question des emplois aidés.
Vous demandez combien de temps?
Laissons les choses comme elles sont.
Pendant combien de temps à peu près, monsieur le maire?
Nous avons demandé même 4 ou 5 mois sur l'année 2017. Nous avons demandé un moratoire sur l'année 2017.
D'accord.
Ce qui nous donne 3-4 mois pour réfléchir, mettre en place des tables rondes sur où sont utilisés ces emplois. Quelles sont les fonctions, les métiers, les activités qu'il y a derrière qui sont nécessaires et comment on les finance, comment on les met en œuvre. Ce qui permet d'avoir une transition et d'avoir un nouveau dispositif. Le gouvernement nous dit, moi je supprime les emplois aidés et je mettrai en place un nouveau dispositif qui est de la formation. Mais la formation, ce n'est pas de l'activité. La formation, c'est former quelqu'un pour qu'il puisse accéder à un emploi.
Oui, alors,
mais encore faut-il que cet emploi soit au bout.
D'accord. Alors, est-ce que pour vous qui êtes quand même un élu politique, enfin je dis, vous avez une responsabilité de la cité, de la ville et tout ça, mais enfin vous êtes quand même un élu politique, quoi. Il ne nous a pas échappé que votre parti aujourd'hui n'est pas macroniste, même si il semblerait que certains de ses membres soient en marche, quoi. Hein? Bon, je pense que sur ce point-là...
Non, il vaut mieux le dire que certains membres de En Marche ont été dans mon parti.
Ah d'accord, donc vous êtes plutôt en train de nous dire qu'ils ne seraient plus là, c'est ça?
Mais
c'est
l'information. Ils ont démissionné.
Tous?
Ben, ceux qui étaient En Marche et se revendiquaient de En Marche ont démissionné du parti publiquement.
D'accord. Et vous voulez qu'on donne des noms pour que vous me disiez si oui, sinon?
Oui, je veux bien. Oui.
L'Ordino.
Il n'est plus au PPM.
D'accord. Copette.
Il n'est plus au PPM, il a démissionné aussi. Ils ont démissionné.
Chaumé
a démissionné.
Robin.
Il est en congé de parti depuis avril.
D'accord. Donc en fait, il a été plus malin, lui.
Il a apprécié les choses différemment, mais on lui a écrit récemment pour lui demander de se positionner. Il ne peut pas être à la fois dedans et dehors.
D'accord, c'était une parenthèse, on la referme.
On la referme.
Oui, ce que je vous disais, c'est qu'il ne nous a pas échappé, monsieur le maire, que aujourd'hui vous n'êtes pas macroniste, quoi.
Bon. Non.
Donc je vais dire,
je vois la question. Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas macroniste que la Martinique est plus touchée que d'autres territoires par la baisse des emplois aidés? Moi, je regarde les choses rationnellement et objectivement. La Réunion a eu 1000 contrats de plus.
Oui.
La Guadeloupe a eu son quota conservé.
Et ici,
la France,
oui,
sur son ensemble, a vu son enveloppe diminuer de 37%. La Martinique a vu son enveloppe diminuer de 53%.
Donc je me pose la question, pourquoi cette différence de traitement? Donc vous êtes à l'étau, alors, donc, si je comprends bien.
Je me pose la question, pourquoi cette différence de traitement?
Et vous répondez quoi, monsieur? Je n'ai pas la réponse.
Je n'ai pas la réponse, puisque ce n'est pas moi qui ai pris la décision de faire cette différence de traitement. Je note la différence de traitement et je me demande pourquoi. Et j'ose croire que ce n'est pas parce qu'il y a des partis politiques ici qui sont plus ou moins proches du gouvernement en place. J'ose croire que les plus hautes instances de l'État gouvernent et gèrent ce pays dans l'intérêt de l'ensemble des concitoyens et pas uniquement dans l'intérêt de ceux qui leur sont plus ou moins proches. Je donne ce crédit-là au président de la République, au Premier ministre et à tous ceux qui prennent des décisions. Mais je m'interroge pourquoi est-ce que, objectivement, en Martinique, eh bien, on a diminué de 53% lorsqu'ailleurs, on a maintenu, voire on a augmenté, et que sur la moyenne nationale, on a diminué que de 30 et quelques pourcents. Est-ce que cela voudrait dire que notre territoire serait mieux développé que les autres? Je ne crois pas. Est-ce que ça voudrait dire que la situation de l'emploi serait meilleure en Martinique qu'en France? Je ne crois pas. On a 20% de chômeurs, 60% chez les jeunes dans certains quartiers, et à 10% de chômeurs, la France crie au scandale. Donc je ne trouve pas les éléments objectifs de cette différence de traitement. Mais je ne doute pas qu'on nous l'expliquera.
Bon, alors, vous êtes en train de nous dire en plus qu'il faut qu'on ouvre les yeux, si je comprends bien.
Ah,
puisque
ben oui.
Bon, vous considérez-vous en tant qu'élu majeur de la ville capitale, Fort-de-France, presque 100 000 habitants, vous considérez aujourd'hui qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. D'accord?
Je l'ai écrit.
Bon, alors, monsieur le maire, dans les choses que nous ne comprenons pas, il y a aussi le fait que nous ne comprenons pas en ce moment où va le pays. Alors, je répète, c'est un complément d'information, ça dure un petit peu peut-être, mais c'est parce qu'on veut rentrer dans le non-non des choses. Vous comprenez bien que moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'on ne peut pas faire comprendre, conscientiser les gens avec une minute trente d'information.
Je suis d'accord. Hein?
Bon. Donc, expliquez-nous comment aujourd'hui, où est-ce qu'on va, et puis quelle perspective qu'on a pour la Martinique dans 15 ans, quoi. Il faut quand même qu'on se pose la question. On a l'impression d'avoir un pays qui potentiellement a plein de choses. On a l'impression que c'est un pays qui se dirige culturellement et compagnie ceci et cela. Et puis, bon, derrière, il y a une affiche avec un besoin de 50 000 emplois, quoi. Bon, alors, on va où? Si les emplois ont aidé, on enlève 6 000 et que c'est le point d'équilibre et que ça bascule, enfin... Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui, que ce soit des élus politiques ou que ce soit peut-être, je ne sais pas moi, les syndicats ou qui est, je ne vais pas dire les états généraux de la Martinique, mais est-ce qu'à un moment donné, nous ne sommes pas arrivés à un moment où il faut imaginer un autre projet pour ce pays?
Oui, il faut un projet pour le pays. Il y a eu des élections pour ça, pour choisir entre deux projets. Les Martiniquais ont fait leur choix. Et ceux qui sont aujourd'hui aux affaires et aux commandes de la collectivité majeure de ce pays, qui a des compétences sur l'ensemble du territoire, notamment celle du développement économique, sont chargés de mettre en œuvre leur projet. Force est de constater que, pour le moment, on a du mal à voir où on va. Oui, on a un pays qui a du potentiel, oui, on a un pays qui a du potentiel en matière d'activité touristique, en matière de tourisme vert, en matière de biodiversité, en matière d'exploitation de nos richesses naturelles, de patrimoine. Mais on a aussi un pays qui a un potentiel en matière d'économie numérique. Pourquoi la Martinique ne pourrait pas être un haut lieu de l'économie numérique? Nous pouvons avoir et nous commençons à avoir les infrastructures qu'il faut pour ça. Nous avons l'intelligence pour ça. Nous pouvons parfaitement nous positionner et faire en sorte que les plus grandes industries du numérique soient installées en Martinique.
Oui,
il faut une volonté politique pour
oui,
ça.
Déjà, si on arrive
Si on arrive à ne serait-ce qu'installer
les nôtres, hein, parce que bon, je veux dire, la numérisation, c'est aussi la mairie, c'est un petit peu tout le monde, c'est toutes les entreprises.
Oui, mais c'est la dématérialisation des services. À la mairie de Fort-de-France, c'est en cours. Nos flux, nos relations avec la préfecture, les services de l'État, comptable de l'État, c'est en cours. On a un projet qui a démarré de d'e-administration et de dématérialisation totale, non seulement de nos actes, mais de nos politiques publiques mises en œuvre. Ça, c'est un volet. Mais moi, je parle de qu'est-ce qui empêche qu'en Martinique, on est les studios Disney qui fassent faire des effets spéciaux sur le territoire de la Martinique par des jeunes Martiniquais, par des gens qui viennent de
oui,
Chine.
Les talents sont là, même si ça coûte moins cher de les faire au Togo, parce qu'un employé au Togo, ça coûte 120 euros. Hein.
Ça ne coûte pas forcément moins cher de les faire à Chamonigan, dans la province de Québec. J'ai rencontré le maire de Chamonigan qui avait une ville sinistrée et qui en 10 ans en a fait un haut lieu.
D'accord.
De
donc, vous dites par exemple le numérique, enfin je veux dire. En matière de production, qu'est-ce qu'on fait? Parce que bon, il faut bien qu'on se rende compte. Sur la Martinique, il faut bien qu'on se rende compte qu'en réalité, les 50 000 emplois du moins qu'il manque, ce sont des emplois qui étaient avant dans la production ou dans autre chose et qui aujourd'hui, avec le système que nous avons, qui est celui du transbordement de marchandises et d'achats, que l'ensemble du tissu local aujourd'hui est défait.
Bon, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que l'économie du 19e siècle et d'une grande partie du 20e siècle qui s'appuyait sur les matières premières et l'agriculture, cette économie-là, elle est totalement révolue.
Oui, mais on mange quand même, enfin, je veux dire...
Oui, mais ce que vous mangez, vous l'importez de plus en plus. Ce que vous mangez, vous le produisez avec de moins en moins de main-d'œuvre. Vous avez besoin de moins en moins de monde pour produire ce que vous mangez. Donc, le résultat, c'est que ce que vous mangez ne suffit pas à mettre en activité et à mettre en activité avec des revenus corrects et à combler vos 50 000, votre besoin en 50 000 emplois.
Ça veut dire quoi?
Traditionnelle oui. Ne peut pas répondre à ce besoin-là.
Oui, ça veut dire que dans 15 ans, on est à 60 000 chômeurs alors.
Non, ça veut dire que l'économie du 21e siècle n'est pas l'économie du 20e siècle. Et justement, c'est là la chance de la Martinique. L'économie du 21e siècle, elle est basée sur l'industrie du loisir, l'industrie du tourisme, elle est basée sur l'industrie du numérique, elle est basée sur la biodiversité, elle est basée sur l'exploitation de ressources naturelles que nous avons. Je parle d'énergie solaire. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, en Martinique, d'exploiter davantage et donc d'avoir une vraie filière de valorisation de cette énergie solaire, à la fois pour justement diminuer nos factures énergétiques, mais aussi pour créer cette filière de fabrication, d'entretien, de recyclage. Vous avez des panneaux solaires qui sont installés depuis 20 ans en Martinique. Ils vont devoir être recyclés bientôt. Qu'est-ce qui nous empêche d'être, nous, un centre de recyclage qui nous permette de récupérer des panneaux solaires qui viennent de la Caraïbe et qui soient recyclés ici? Mais pour ça, il il faut une vision, il faut faire des choix et il faut une vraie volonté politique et il faut des investissements derrière.
Vous nous proposez de faire le petit laboratoire sur Fort-de-France ?
Oui, j'ai bien l'intention de faire le petit laboratoire sur Fort-de-France, notamment sur l'énergie numérique. J'ai bien l'intention de faire de Fort-de-France un haut lieu de l'industrie numérique dans la Caraïbe. Dans les prochaines années, j'ai commencé à y travailler. Il y a un studio de formation et d'effets spéciaux avec des jeunes qui ont décidé de rentrer en Martinique, qui travaillaient dans des grandes multinationales, qui ont travaillé sur les effets spéciaux du Seigneur des Anneaux, qui sont venus ici et qui ont monté cette école et ce studio pour former des jeunes Martiniquais installés à Fort-de-France.
Puisque vous parlez d'art, monsieur le maire, et je ne vous lâche pas, hein, parce que je profite une fois que je vous ai, je profite. Est-ce que vous connaissez l'œuf,
ce qui s'appelle oui, je connais l'œuf. Oui,
vous savez qui ferme. Est-ce que vous êtes au courant de ça?
Oui.
Et vous en pensez quoi?
Mais j'en pense que là encore, il faut que la puissance publique, c'est ce que la ville de Fort-de-France fait, accompagne. La puissance publique ne peut pas tout porter elle-même. Son rôle, c'est aussi d'accompagner et de mettre en œuvre les dispositions qui permettent à l'initiative privée, et quand je dis privée, c'est pas forcément du profit, mais dans le cas de l'œuf et dans le cas de l'expression artistique et culturelle, de pouvoir éclore. C'est bien pour ça que je suis en train de travailler avec la Chambre d'art et des métiers
sur la rue Garnier-Pagès,
où l'œuf était implanté d'ailleurs, un projet qui nous permette de maîtriser des locaux pour justement favoriser ce type d'activité qui, là encore, on revient sur les associations, là encore, c'est très difficile d'équilibrer économiquement ce type d'activité. Donc, il faut que nous, puissance publique, on puisse maîtriser le local pour le mettre à disposition avec des coûts moindres qui permettent justement à la structure d'équilibrer ses charges et donc de pouvoir continuer à développer l'art et l'expression artistique. Et donc là, nous sommes partis sur la rue Garnier-Pagès pour tout ce qui est artisanat d'art et expression artistique, et puis sur une partie de la rue Victor Hugo plutôt pour tout ce qui touche à la mode et aux cosmétiques.
D'accord. Alors, je sais que vous aviez aussi un projet à l'époque de mettre Fort-de-France en zone détaxe. Est-ce qu'il ne faut pas profiter justement de tous ces cyclones qu'il y a eu dans la Caraïbe avec Saint-Martin qui aujourd'hui ne pourra pas fonctionner pour expérimenter ce modèle? Ce n'est pas possible d'essayer pendant au moins 2-3 ans?
Ben nous continuons de mener ce combat-là avec le gouvernement parce que l'instauration de...
Comment il faut mener un combat sur ça? Enfin, je veux dire...
Parce que ce n'est pas vous qui avez le pouvoir de décision dans ces domaines-là. Donc, il faut convaincre. Il faut expliquer, il faut convaincre de la nécessité.
Et aujourd'hui, on comprend pas que dans la Caraïbe, il peut y avoir une île française en zone détaxe. On comprend pas ça. Même Fort-de-France, c'est un
territoire en détaxe. Non, aujourd'hui et aujourd'hui plus qu'hier, parce que nous avions obtenu un certain nombre d'accords et d'engagements avec le gouvernement socialiste de François Hollande. Aujourd'hui, plus qu'hier, on regarde et on analyse les choses sous l'angle des chiffres et des coûts. Et on réduit la vie des gens à des montants financiers, à des chiffres et à des coûts, ce qui amène parfois à des décisions très brutales. Donc on va regarder qu'une zone détaxe, ça fait perdre tant d'argent en matière de recettes fiscales pour l'État. On ne regarde pas que derrière, il y a tant d'emplois qui sont créés, telle activité, donc tant d'argent qui va être économisé sur le traitement social d'une situation difficile. D'accord. Donc ce sont des choix et pour ça il faut convaincre les gens. Aujourd'hui je me bats avec mes collègues de Pointe-à-Pitre, de Basse-Terre, de Cayenne ou de Mamoudzou, je me bats pour que des dispositions qui sont appliquées en France sur les réductions des dotations soient appliquées en Martinique également. Je m'explique, aujourd'hui, la baisse de la dotation des collectivités, des mairies, est compensée pour les mairies qui sont en politique de la ville par une autre dotation qui s'appelle la DSU, dotation de solidarité urbaine. Eh bien, c'est le cas à 100% en France, c'est le cas à 38% après un combat en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte. Et je me bats pour faire admettre que nous avons des territoires qui sont en retard de développement par rapport aux territoires français qui sont en difficulté. Donc nous avons des territoires qui ont des situations particulières, qui ont des situations complexes, et qu'on ne peut pas ne pas nous appliquer une disposition de la loi qui dit la DSU compense la baisse de dotation de DGF pour les gens qui sont en politique de la ville.
Vous avez peut-être besoin, pour vous faire entendre, de Chaumet, Lordino et compagnie.
Non, j'aurais surtout besoin de. Je vais porter ce combat-là au comité des finances locales où j'ai été élu au mois de juin dernier et proposé par l'Association des maires de France pour représenter toutes les villes d'outre-mer. Je vais porter ce combat-là, je vais mobiliser l'ensemble des villes d'outre-mer sur les problématiques financières et porter le combat à ce comité des finances locales qui rend un avis sur la loi de finances, qui a un avis sur la réforme des dotations sur les dotations. Donc nous avons un travail à faire pour faire entendre ces réalités-là. Il faut qu'on se rende bien compte que nous sommes dans un pays, la Martinique, pour lequel un certain nombre de décisions sont prises à Paris, par des gens qui n'ont pas forcément l'appréhension de notre réalité. Et donc, il y a à se battre pour faire entendre ça. Mais il ne faut pas se voiler la face non plus. Nous sommes dans un pays, la Martinique, où il y a à se battre pour faire entendre la nécessité d'un certain nombre de choix et d'orientations à des Martiniquais eux-mêmes qui vivent la réalité. Si on prend le cas, on revient sur le cas du TCSP, mais sur d'autres problématiques en Martinique, il y a à se battre pour faire entendre la nécessité de développer, ne serait-ce que de financer des aménagements pour les communes. Les communes n'ont pas les moyens de financer un certain nombre d'aménagements, un certain nombre de projets, ce qui ne veut pas dire que ces aménagements et ces projets ne servent pas à l'ensemble de la Martinique. Le Malécon qui a permis de protéger le centre-ville d'inondations sévères lors du passage de Maria.
Merci Claude Lys,
c'est ce que j'allais dire. Le Malécon qui a été, dont la dalle a été financée en partie par le Conseil Général de l'époque. Ce Malécon est un équipement qui est au service de la ville, structurant au service de la ville de Fort-de-France, mais au service des Martiniquais qui y viennent, chaque fois qu'il y a une manifestation et chaque fois qu'on met 30 000 personnes sur la savane, l'aménagement de la savane et du front de mer, mais cet aménagement-là est au service des Foyalais, mais aussi des gens qui viennent vendre à Fort-de-France, des gens qui viennent, dont l'activité, des gens qui louent des sonos, des entreprises de sécurité, etc., de toute l'économie
qu'il y a derrière. Tout ce qui est dans l'industrie culturelle, quoi.
Tout ce qui est dans l'industrie culturelle n'est pas spécifiquement Foyalais, et encore moins le maire et son équipe municipale et son parti politique. C'est la population, c'est le peuple martiniquais qui en tire profit. Lorsque vous avez le festival culturel de Fort-de-France, vous avez l'industrie culturelle qui travaille. Et c'est pas que des Foyalais. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a, à se battre pour faire entendre sa vision du développement, y compris chez soi-même. Le TCSP n'est pas un système de transport au profit de Fort-de-France. Il peut amener du monde à Fort-de-France, mais il peut aussi en enlever.
Disons que dans les deux sens, même si, et même s'il était au profit de Fort-de-France, il n'y a pas de mal à ça non plus.
Non, mais ce que je veux dire...
Non, mais il n'y a pas de mal non plus à ça. Je veux dire, Fort-de-France aussi a besoin
C'est
un élément structurant aussi.
C'est la capitale de la Martinique. C'est donc l'image de la Martinique.
Oui, bien sûr.
C'est donc
si Fort-de-France est dynamique...
Le fer de lance de la Martinique dans la Caraïbe et dans le monde. Mais au-delà de ça, lorsque vous avez un système de transport structuré et performant, ça ne bénéficie pas à une collectivité en tant que telle, ça bénéficie à un peuple, ça bénéficie à l'économie de la Martinique. C'est des gens qui peuvent garer ailleurs, se rendre plus facilement dans des restaurants qui sont à Fort-de-France, qui sont tenus par des gens qui n'habitent peut-être pas à Fort-de-France, qui ne vont peut-être même pas à Fort-de-France.
Ça
bénéficie à une activité et ces restaurants s'alimentent sur, et donc font tourner une économie qui est martiniquaise. Permettre à des gens de pouvoir se déplacer à moindre coût, ben c'est améliorer leur pouvoir d'achat. Et donc leur permettre de dépenser leur argent ailleurs que dans des voitures, de l'essence, des pneus, tout ça qui repart et qui reste, laisse très peu d'argent dans l'économie du pays.
Il y a aussi des Martiniquais qui travaillent dans les voitures, dans les pneus et tout ça. Donc il s'agit en fait de faire tourner le système.
C'est tout un système et un ensemble. Il faut se battre en fait pour faire entendre et faire partager sa vision du développement. Moi, je vous dis, je suis convaincu que la Martinique a une carte à jouer en matière d'industrie du développement durable. Nous avons une carte à jouer, pas seulement pour développer ça chez nous, pour avoir des panneaux solaires chez nous, mais pour pouvoir vendre cette technologie, vendre ses services à nos voisins, à l'extérieur. Nous avons une carte à jouer dans le domaine du numérique. Le numérique et les nouvelles technologies nous affranchissent ce qu'on appelle des handicaps, que je n'aime pas, de certaines contraintes. Nous permettent d'être en relation et de travailler d'ici pour des gens qui sont en Chine, qui sont en Australie, demain qui seront sur la Lune.
Absolument.
Et donc ça nous permet d'ouvrir notre marché. Et donc pour ça, il nous faut nous organiser et il nous faut nous développer pour faire en sorte qu'est-ce qui nous empêche que nous ayons la tour Lumina, soit un data center pour l'Amérique du Sud et pour l'Amérique du Nord. On est à mi-chemin, on est sur le passage entre l'Amérique du Nord qui produit excessivement de données et l'Amérique du Sud qui commence à être un gros consommateur. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir ici positionné un data center avec donc de l'activité de pointe sur le territoire de la Martinique et donc avec une forte valeur ajoutée qui permet justement de tirer l'économie de la Martinique. La Martinique a tous les atouts pour ça.
Oui.
Derrière, alors, il faut une volonté, il faut le partager,
il faut des moyens financiers. Et puis il faut aussi l'écosystème.
Mais pour développer ce genre de choses, il faut développer un écosystème à côté. Mais pour ça, il faut une volonté politique et il faut dégager des moyens financiers pour ça. Il faut y croire.
Oui, vous semblez l'avoir là, monsieur le maire.
La volonté, absolument.
Donc,
j'ai la volonté, je trouverai les moyens financiers.
D'accord.
Je fais partie de ceux qui considèrent que les finances et l'argent est un outil au service d'une politique de développement. Donc il faut avoir cette politique de développement pour aller chercher les moyens financiers.
Ça veut dire que j'ai compris que vous êtes candidat à votre candidature, c'est ça?
Candidat à ma candidature de quoi?
Enfin, je veux dire, pour la mairie.
Ah non, pour l'instant, je suis maire.
Monsieur le maire, les élections,
c'est dans deux ans et demi, oui.
Enfin,
c'est
je veux dire, si vous êtes candidat, quoi.
Pour l'instant, non, mon parti n'a pas encore... très honnêtement, je ne me préoccupe pas de la prochaine échéance électorale, je me préoccupe de ce qu'il y a à faire aujourd'hui et de ce qu'il faut mettre en place pour permettre à mon pays d'avancer. Maintenant, lorsque le moment de, je veux dire, la mécanique électorale arrivera et qu'il faudra se renouveler, si vous me demandez est-ce que j'ai envie de continuer. Oui, j'ai envie de continuer. J'adore ce que je fais. J'aime ce que je fais. J'ai le sentiment d'être utile à ma ville. J'ai envie d'amener ma ville sur la voie du développement. Donc oui, j'ai envie de continuer.
D'accord. Bien,
et j'adore la proximité avec les Foyalaises et les Foyalais. Donc oui, je suis très bien là. Je me sens très bien là, malgré les contraintes, les difficultés, malgré le contexte financier morose, etc. J'adore ça.
Eh bien, écoutez, monsieur le maire, c'est sur ces mots-là que nous allons arrêter notre rencontre.
Parce que je peux vous tenir là toute l'après-midi. Hein.
Non, mais moi, je n'ai pas de problème pour ça. Parce qu'en fait, si vous voulez, je répète, hein, je fais partie de ceux qui disent qu'il faut rentrer dans le nan-nan de l'information.
Oui, oui,
d'accord.
Oui.
Lorsque vous-même, vous le vivez tous les jours, vous n'avez pas pu vous expliquer en 1 minute 30 sur les emplois aidés. Moi, je découvre votre position aujourd'hui. Je pense que ceux qui nous écoutent, ceux qui nous entendent, vont aussi la découvrir et vont comprendre que finalement, bon, vous êtes simplement solidaire à un contexte. Mais que dans le fond, cette question de
l'emploi aidé en tant que tel, l'objectif c'est pas l'emploi aidé, l'objectif c'est les gens qui travaillent, c'est les missions qu'ils remplissent. Et aujourd'hui, il n'y a que ça qui nous permet d'assurer ces missions là. Donc il faut le faire.
Alors, moi je considère que celui qui n'est pas encore en campagne aujourd'hui hein, pour les prochaines municipales, je pense qu'il a presque perdu son siège. Hein. C'est en tout cas l'analyse que je fais. Mais enfin, disons que moi, ce que je vous propose, parce que vous savez que nous avons monté ce réseau de médias qui donne la parole de manière plus intense, à la fois avec le groupe Fusion, qui quand même représente une dizaine de radios en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, le site internet ici Martinique et le blog macacla.com, ainsi qu'une série d'autres sites et d'autres radios web, puisque nous on est complètement numérique, hein, qui permettent d'avoir à la fois donc ces émissions qui sont retransmises à Paris, à Toulouse, à Montpellier, où il y a des communautés antillaises qui nous écoutent. Donc moi je considère que, comme vous m'avez dit, qu'il y a tellement d'autres choses à dire, qu'on prend rendez-vous.
Oui.
D'accord, on prend un rendez-vous, on va s'organiser pour de manière régulière vous donner la parole.
Pas de souci.
Et la prochaine fois, je vous propose qu'on parle d'un sujet qui me préoccupe, moi, à Fort-de-France. Mmh. C'est la question du sport, de la représentation de cette ville au niveau des événements, puisque je vois que, pour moi qui suis très intéressé par la question du cyclisme, je me rends compte qu'on n'a même pas un cycliste à Fort-de-France capable de
gagner le tour.
Mais au moins de gagner une étape du tour. Ce serait déjà pas mal. Et puis deuxièmement, j'ai appris que notre tiole, elle était garée, que bon, l'année dernière, elle n'est pas sortie. Donc je veux dire, on a 100 000 habitants, monsieur le maire. Je veux dire, est-ce que cette affaire-là ne peut pas continuer, quoi?
Oui, on peut en discuter. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, ben, encore une fois, hein, on revient à la problématique des emplois aidés. Aujourd'hui, que ce soit le cyclisme, que ce soit
les autres associations,
associations sportives,
Monsieur le maire,
elles reposent beaucoup sur des budgets municipaux.
Monsieur le maire, je connais bien le domaine.
Oui.
J'ai été moi-même président du Vélo Club du François, vous le savez.
Oui.
D'accord. Je veux dire, la mairie du François.
Oui,
mais je vous dis.
La mairie du François.
10 000 euros.
Voilà.
Pas plus, et ça permet, enfin je veux dire, on va me dire qu'à Fort-de-France, il n'y a pas 10 000 euros pour monter un club, quoi, enfin. Bon, deuxièmement...
Attendez. On va faire l'interview.
Non,
ce que je veux dire, c'est que, au François, oui. Vous avez un club cycliste,
oui.
Un club de football,
oui.
Un club de natation,
oui.
Et puis voilà.
Non, il y a 70 associations, François.
Non, je ne parle pas d'associations,
je vous dis qu'il y a 70 associations. Attendez, dans
le cas... Il y a 10
oui.
Clubs. De
non,
foot.
Mais, non, pas du tout.
Ah, non, à Fort-de-France.
Non, non, mais attendez.
À Fort-de-France,
non, pas
10
du
clubs
tout.
De
mais
foot.
Vous vous trompez.
Donc, si, quand,
non, non, mais
quand,
monsieur
quand
le maire, vous vous trompez.
Non, non, je ne me trompe pas du
tout. Non, mais je peux.
Je
prends le
cas,
par exemple, aujourd'hui, au François, vous avez au moins 2 clubs de foot
oui.
À haut niveau, avec le club phare, tout ça. Et puis, vous avez aussi la deuxième équipe dont j'oublie le nom, qui est montée aussi.
Mm-hmm.
Bon, sur la partie cycliste, il y a le VCF, il est vrai, mais il y a aussi un autre club qui fait aussi du VTT et des trucs de bike mm-hmm. et compagnie, mm-hmm. ceci et cela. Enfin, je veux dire, il y a énormément d'associations. Je ne dis pas que Fort-de-France.
Pas qu'il n'y a pas énormément
d'associations. Oui, je ne dis pas que Fort-de-France.
Je parle
non,
de club
ce que je veux dire, je ne dis pas que Fort-de-France
mm-hmm.
N'a pas des associations. Ce que je veux dire, c'est que je ne comprends pas que, par exemple, alors que nous avons, monsieur le maire, que nous avons l'une des plus belles baies du monde,
mm-hmm.
qu'on n'ait pas Niol qui prenne au moins le départ du tour. On reçoit 2 étapes du tour, on n'a pas Niol qui prenne le départ. En fait,
oui,
je veux
parce
dire,
que l'association qui gère là, elle a rencontré un certain nombre de difficultés et ils ont fait le choix. Vous savez combien d'argent la ville de Fort-de-France mettait dans la Niol?
Alors ça m'intéresse.
Ah bon, 15 000 euros.
C'est pas beaucoup. Hein.
Ah, c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup hein, par rapport à certaines Niol et aux subventions de certaines villes dans certaines Niol. Et c'est beaucoup par rapport aux subventions qu'on met dans d'autres associations sportives. Hein.
Mm.
Donc la ville de Fort-de-France a fait les efforts pour la Niol de la Fouillalaise. Maintenant, il faut se rendre à l'évidence aussi. Une Niol, ça coûte très cher. Surtout si vous voulez une Niol compétitive. Une Niol, ça coûte très cher. Une Niol, c'est basé aussi, et on l'oublie, sur une dynamique associative forte.
Oui,
okay?
Si
ce si n'est pas le cas en ce qui concerne la Fouillalaise, vous avez des difficultés et vous êtes obligé de porter financièrement la structure,
quoi.
L'affaire. Et donc, lorsque vous avez des sponsors qui voient leur activité diminuer, etc., et donc ils ne sont pas en capacité d'eux, vous avez du mal à boucler votre budget.
Bon.
Ça, c'est une réalité. Mais on peut faire toute une émission sur ça. Parce
d'accord.
Que
on donne rendez-vous
ouais,
la
y a
prochaine
pas de
fois.
On a une quantité. Et si je vous donne les montants qui sont consacrés sur Fort-de-France à l'activité sportive et à l'activité associative sous toutes ces formes, vous serez surpris.
Parce c'est quoi y a le budget global?
Parce qu'il n'y a pas, y a
à
pas
peu
que...
Près, à peu près.
Il y a plusieurs dizaines de millions d'euros dans cette affaire-là. Il n'y a pas que la subvention en liquide, en argent que vous donnez à la structure. Il y a les conditions que vous mettez autour. Il y a les locaux que vous mettez à disposition. Il y a les infrastructures que vous mettez à disposition. Hier, je recevais, jeudi soir, les présidents des clubs de hand. Sur la problématique, je veux couvrir 2 plateaux sportifs pour améliorer les conditions d'entraînement. Mais la couverture de chaque plateau sportif, c'est 590 000 euros que je veux faire financer, évidemment, par les fonds du ministère des Sports le CNDS. Mais quand j'ai fait ça, j'ai mis 1 million sur 2 plateaux sportifs. Je n'ai pas pu aider tous les clubs. Il reste encore du travail à faire et je n'ai pas fait toutes les disciplines. Donc, vous avez... quand vous avez une ville de cette taille, vous avez des montants importants sur l'entretien des infrastructures. Et que parfois, entretien que des fois, on prend les annexes, c'était annexe du stade de Dinan, j'ai beaucoup de remontées sur la qualité des terrains qu'on est en capacité d'offrir. Mais c'est des coûts qui sont importants. Et donc, c'est un coût global et que vous ne pouvez pas comparer avec le coût que va supporter une commune.
D'accord.
C'est ça. Aujourd'hui, à Fort-de-France, vous avez 4 clubs dans l'élite. D'ailleurs, nous, on finance un jeu de maillot sur 2 ans pour les 4 clubs et on finance aussi les licences. Mais Et c'est ça qui fait aussi de la complexité. Parce que tous les clubs n'ont pas vocation à briller dans l'élite.
C'est ça.
Et toutes les disciplines n'ont pas vocation non plus à briller dans l'élite.
Il faut assurer les petits
une cohésion.
Une filière.
Et pour créer une filière. On a un travail important à faire sur l'athlétisme. Pour pouvoir justement permettre à nouveau l'émergence de talents. Parce que je ne veux pas croire que les Martiniquais ne sont plus de bons athlètes.
Oui, mais au-delà même des Au-delà même des Martiniquais, moi, ce qui m'intéresse quand même, c'est qu'il y ait des icônes foyalaises. Enfin, je veux dire, Victor Jean-Baptiste à l'époque, Cayol à l'époque, enfin, je veux dire, c'était...
Mais il y a des icônes foyalaises, il y a des icônes foyalaises dans le football. Et puis aujourd'hui, à l'époque, vous prenez Victor Jean-Baptiste ou Claude Cayol, ils ont joué toute leur carrière au club colonial. Aujourd'hui, les icônes du François d'hier sont au Golden Lion de Saint-Joseph aujourd'hui. Donc aujourd'hui, notre football, il y a ça aussi, ce contexte a évolué. Vous avez par exemple, ce que vous ne savez pas, vous avez beaucoup de jeunes Foyalais qui brillent dans les clubs cyclistes en commune.
Oui, absolument. Oui,
absolument, il y en a beaucoup qui brillent. Donc c'est toute une politique sportive et la politique sportive de la ville doit-elle être tournée exclusivement ou principalement vers l'élite ou doit-elle être tournée vers le sport de masse, un terme qui, je sais, va rappeler certaines choses à certaines personnes, vers le sport de masse, vers l'éducation et l'accompagnement du plus grand nombre, vers le sport en direction de la santé. C'est une orientation qu'on a prise aussi. On a une très forte...
Oui, en plus, c'est une orientation du ministère aussi.
Non, mais je peut-être.
Oui, c'est en plus, oui. C'est...
Non, non, peut-être, je ne sais pas. Moi, c'est une orientation que j'ai prise quand je suis arrivé. Peut-être que ça correspond à une orientation du ministère, j'en sais rien. Mais c'est une orientation que nous avons parce qu'il y a des problématiques de santé publique derrière. Il y a des problématiques d'obésité, des problématiques de diabète, etc. Et donc, voilà, il y a tout un ensemble. De l'activité de la politique sportive et dont une partie est l'élite. Et c'est vrai que on a naturellement tendance à regarder cette partie-là parce que c'est elle qui est l'élite, justement. Elle sert de phare et de repère, mais derrière il y a tout un ensemble.
Bon, je vois que le métier de maire vous passionne finalement.
On prend rendez-vous pour la prochaine fois de manière régulière. Sans problème.
Et on parlera du sport.
On parlera du sport.
Merci monsieur.
Et bon week-end. Et à lundi dans les rues.
Oui.